Matinée Matin se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Aucun accord n'a été conclu lors du sommet à Hanoï entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Donald Trump. C'est ce que dit la Maison-Blanche à l'instant. Pas de cérémonie publique de signature donc. Le président américain doit prendre la parole dans les minutes qui viennent. Nous retrouverons notre envoyé spécial.
Des avions abattus, un pilote indien emprisonné, le Pakistan qui ferme son espace aérien. Les tensions montent d'un cran entre les pays. Nous vous expliquerons pourquoi.
Les négociations commerciales entre distributeurs industriels et producteurs en France se terminent ce soir à minuit. Une fois n'est pas coutume, elle semble bien se passer, vous le comprendrez.
Et puis nous nous pencherons sur les tensions politiques et culturelles entre la France et l'Italie. Au cœur de ces querelles, le génie Léonard de Vinci, le ministre de la Culture Franck Riester, s'envole ce matin pour Milan.
Après ce journal, dans son billet politique, Stéphane Robert analysera l'étrange obstination du gouvernement à vouloir privatiser l'ADP, l'aéroport de Paris. Mais d'abord ce matin, levons la tête pour imaginer les 6 satellites envoyés depuis la Guyane française cette nuit. La fusée Soyouz les a mis en orbite dans le cadre du projet OneWeb, projet imaginé par un entrepreneur américain qui veut créer une méga constellation de satellites pour fournir un accès à Internet. Un accès à Internet à un prix abordable sur toute la planète, Catherine Pétillon.
Apporter Internet sur toute la surface de la Terre, en mer, dans l'espace, c'est l'objectif du projet américain OneWeb. Son fondateur promet un accès Internet haut débit pour tous d'ici 2027. Aujourd'hui encore, environ 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès au web pour des raisons techniques ou économiques. Pour assurer cette couverture globale, OneWeb compte déployer une constellation de satellites de télécommunications. Ils permettront d'avoir des points de connexion dans l'espace. C'était hier la toute première étape dans la constitution de ce réseau. 6 prototypes ont été lancés depuis le Centre spatial européen de Kourou, en Guyane. Une fusée russe Soyouz commercialisée par ArianeSpace était chargée de mettre sur orbite à 1000 km d'altitude les engins de 150 kg chacun. D'autres lancements sont prévus d'ici 2020 depuis Baïkonour au Kazakhstan et Vostochny en Russie. L'entreprise américaine projette de lancer en tout 900 satellites. À titre de comparaison, la plus grande constellation actuellement en service, le système de téléphonie par satellite Iridium, ce sont 66 satellites actifs. Le système de positionnement GPS fonctionne lui avec 31 satellites actifs. Dans ce marché émergent des méga-constellations, OneWeb est en concurrence avec SpaceX, l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk. Mais dans ces projets restent de nombreux inconnus. Quelle est la viabilité et le modèle économique et quelles seraient les conséquences pour l'espace d'un tel changement d'échelle dans le nombre de satellites envoyés. Ce sont autant de débris spatiaux en puissance.
Et justement, faut-il s'inquiéter de ces nouveaux débris spatiaux? Question posée à Christophe Bonal, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Voici sa réponse.
Au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup d'objets. Ceux qu'on voit facilement, ce qu'on appelle les objets catalogués, il y en a 30 000. Sur ces 30 000, il y a environ 4 500 satellites. Donc il est exact que de rajouter 600 satellites, c'est significatif, mais c'est pas extraordinaire. Par exemple, en 2018, on a quand même lancé 550 objets dans l'espace. Les satellites de OneWeb, en principe, ils doivent avoir 5 ans de durée de vie, et au bout de ces 5 ans, ils redescendent de manière à se désorbiter de façon contrôlée et rentrer dans l'atmosphère et brûler dans l'atmosphère.
Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, aucun accord n'a été conclu à ce stade entre Donald Trump et Kim Jong-un au sommet de Hanoï. La Maison-Blanche l'annonce avant une conférence de presse du président américain qui est prévue dans les minutes qui viennent. Donald Trump est depuis 2 jours à Hanoï au Vietnam. L'objectif était d'avancer sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pourtant, Pyongyang pourrait avoir plus de temps que prévu pour renoncer à l'arme atomique. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place Dominique André. Dominique, tout s'accélère ce matin à Hanoï.
Oui, absolument. En fait, le programme est complètement bousculé en cette fin de sommet. Et à vrai dire, on ne sait pas vraiment ce qui se passe puisqu'on a vu les 2 convois de Kim Jong-un et de Donald Trump quitter l'hôtel Métropole où a eu lieu le sommet. Le déjeuner de travail qui était prévu entre les 2 présidents et leurs conseillers a été annulé, vient d'annoncer Sarah Sanders de la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche, effectivement, a ajouté aussi qu'aucun accord n'avait été conclu à ce stade entre Donald Trump et Kim Jong-un. En ce qui concerne la déclaration conjointe qui devait être signée ce matin. Elle n'est pas confirmée. La conférence de presse du président américain est donc avancée. Alors la délégation américaine tente de tempérer à l'instant en précisant que les équipes respectives américaines et nord-coréennes comptaient bien se revoir à l'avenir. Mais c'est tout de même une surprise puisque ce matin, Kim Jong-un avait accepté de répondre à une question d'un journaliste qui lui demandait s'il était favorable à un démantèlement de son arsenal nucléaire. Et Kim Jong-un avait répondu « Si je ne l'étais pas, je ne serais pas là ». C'est donc la grande confusion ici à Hanoï.
Merci Dominique André, aidé de Frédéric Kérouf au Vietnam pour France Culture. Hanoï, le Vietnam où Donald Trump a sur les photos ce matin le visage fermé, crispé. Peut-être a-t-il aussi en tête l'audition de son ancien avocat devant le Congrès américain. C'était hier soir à Washington pendant que le président se préparait à rencontrer Kim Jong-un. Michael Cohen, l'ancien avocat Donald Trump, donc, a livré un témoignage explosif. Il a décrit le président américain comme un président raciste, un escroc qui a voulu étouffer en pleine campagne présidentielle une liaison extra-conjugale. L'audition de Michael Cohen portait également sur les soupçons de collusion avec Moscou. Notons que Michael Cohen a été radié du barreau. Il a été condamné en décembre dernier à 3 ans de prison, notamment pour parjure devant le Congrès américain, justement. Des milliers de vacanciers sont bloqués à l'aéroport de Bangkok, en Thaïlande en ce moment, au lendemain de la fermeture de l'espace aérien du Pakistan. Suite et conséquence des tensions grandissantes entre le Pakistan et l'Inde, les deux puissances nucléaires s'affrontent depuis 2 semaines maintenant, depuis un attentat au Cachemire indien. Chacun dit avoir abattu en représailles des avions adverses. Sébastien Farcy.
C'est une escalade militaire explosive qui vient d'avoir lieu entre les deux puissances nucléaires. Jusqu'à présent, New Delhi visait les organisations terroristes pakistanaises et particulièrement celle du Jaïch-e-Mohammed qui a revendiqué l'attentat du 14 février dernier contre les militaires indiens au Cachemire. À présent, ce sont les deux armées conventionnelles qui s'affrontent. 2 avions de chasse ont été abattus hier matin, un indien et un pakistanais, et un pilote indien est maintenant prisonnier au Pakistan. New Delhi proteste d'ailleurs contre la diffusion des images qui montrent ce prisonnier de guerre blessé circuler sur les écrans de télévision, ceci à l'encontre des conventions internationales. Islamabad, avec cette conquête de guerre, tend maintenant la main à son voisin. Le Premier ministre Imran Khan vient de demander à l'Inde d'accepter de dialoguer pour éviter de sombrer dans une guerre destructrice. Mais New Delhi ne peut accepter un tel apaisement sans qu'Islamabad n'agisse sérieusement contre les organisations terroristes pakistanaises qui visent l'Inde. Selon des sources citées par les médias indiens, Narendra Modi, le Premier ministre indien, aurait donné carte blanche à son armée pour riposter contre le Pakistan au moment où elle le souhaiterait. La crise est donc loin d'être terminée entre ces 2 éternels frères ennemis.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI depuis New Delhi pour France Culture. Alors, pour quelle raison est-on passé d'une escalade verbale à des incidents armés? Christophe Jaffrelot est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde et du Pakistan. Il note l'absence du médiateur habituel, les États-Unis.
La situation est assez exceptionnelle du fait de l'effacement des États-Unis de la scène diplomatique. Lorsqu'on regarde les crises précédentes, 2002, c'était George Bush, 99, c'était Bill Clinton, à chaque fois, c'est grâce à une intervention, on peut dire en tout cas une médiation américaine, qu'on a évité le pire. Là, on est dans un contexte tout à fait nouveau. Les États-Unis sont abonnés absents. Ils se retirent de la scène diplomatique, sauf dans le cas du dossier coréen, nord-coréen. Du coup, personne ne s'occupe de cette question et il revient paradoxalement aux Chinois de jouer les premiers rôles. Paradoxalement, ou peut-être est-ce là un signe des temps à venir? Dans la région, en tout cas, c'est peut-être la Chine qui fera le jeu diplomatique qu'auparavant on laissait faire les Américains.
Le spécialiste de l'Inde et du Pakistan, Christophe Jaffrelot, il répondait à Guillaume Fariol.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal, les négociations commerciales entre producteurs, distributeurs et industriels.
Se termine aujourd'hui, jeudi. Les tractations déterminent les tarifs alimentaires. Elles sont souvent très tendues. Mais cette année, il n'y a pas eu de grandes querelles comme les années précédentes, Anne Lorchouin.
Ce sont des négociations par définition secrètes, mais il en transpire toujours quelque chose. L'année dernière, à la même époque, la pression des distributeurs sur leurs fournisseurs était plus forte que jamais et tous les syndicats agricoles s'en étaient plaints. Cette année, changement de ton. Certes, la pression à la baisse sur les prix se fait sentir sur certains secteurs, comme la viande, mais ailleurs, et particulièrement sur le lait, les parties prenantes ont réussi à s'entendre, semble-t-il. Marie-Thérèse Bonneau, productrice laitière en Vendée et membre de la Fédération nationale des producteurs laitiers, reste méfiante.
Si le lait s'en sort bien, tant mieux, mais c'est plutôt aujourd'hui, un sentiment plutôt qu'une réalité avérée. C'est une année très charnière pour les éleveurs parce que nous avons subi beaucoup trop d'années où les choses étaient très difficiles. Et s'il n'y a pas un signal positif, mais pas seulement dans les discours, mais dans le prix du lait, malheureusement, je pense que les vaches prendront plutôt le chemin du camion plutôt que le chemin du pré. Et ça, c'est vraiment une année charnière pour l'élevage et pour la filière laitière.
La loi issue des États généraux de l'alimentation était censée permettre de prendre en compte une partie des coûts de production dans la construction des prix d'achat. Si cela est respecté, le lait ne pourra pas être vendu en dessous de 396 euros les 1000 litres. On saura en avril seulement si ce coût de revient a été respecté par les transformateurs et les distributeurs.
Face au malaise agricole, évolution, révolution, nous en discutons dans les matins de France Culture et nous retrouvons nos invités dans moins de 10 minutes. Les pharmaciens pourraient bientôt délivrer en urgence des médicaments normalement prescrits uniquement sur ordonnance, sorte de dépannage en cas de petite urgence. Selon nos confrères de France Info, le rapporteur La République En Marche du projet de loi Santé va déposer un amendement en ce sens. Le texte doit être débattu à l'Assemblée nationale le mois prochain. Penchons-nous à présent sur les élections européennes qui auront lieu dans 3 mois. Le parti Les Républicains a, pour le moment, bien du mal à se faire une place entre La République En Marche et le Rassemblement National. Sa tête de liste, Xavier Bellamy, a déclaré en début de semaine se sentir plutôt Macron que Le Pen. Des propos qui posent question dans son camp, déjà divisé sur la ligne à tenir aux européennes. D'autant que dans le même temps, Xavier Bellamy montre une vision de l'Europe plutôt conservatrice. L'une des députées historique, Les Républicains, Françoise Grosstête n'y adhère pas. Elle s'est entretenue avec Steven Goyer.
Après 25 ans successifs de présence au Parlement européen, la députée Les Républicains Françoise Grosstête a cette fois décidé de ne pas demander à son parti d'investiture pour le prochain scrutin.
Pour moi, c'était une question d'éthique. Je sais que je ne suis pas du tout sur la ligne politique de mon parti concernant l'Europe.
Et ce ne sont pas les quelques lignes écrites hier par François-Xavier Bellamy qui pourraient lui faire changer d'avis, notamment lorsqu'il estime qu'il ne peut y avoir de souveraineté européenne.
Je pense qu'on ne peut défendre la souveraineté de la France qu'à travers une souveraineté européenne. Vous savez, quand on parle du climat, quand on parle du phénomène migratoire, quand on parle de la défense, toutes ces politiques-là ne peuvent être traitées qu'au niveau européen.
En tant que vice-présidente du PPE, le parti de droite et du centre-droit au Parlement, elle serait aussi plutôt favorable à une armée européenne. François-Xavier Bellamy, lui, est contre. On retrouve la même opposition sur la question du budget européen.
Au PPE, dans mon groupe, on est favorable à un budget de la zone euro. Là, les Républicains se positionnent différemment. C'est quand même un peu étrange. Si on a de plus en plus de députés qui viennent avec des hésitations sur telle ou telle valeur, principe, ça va être, à mon avis, très compliqué pour le PPE. Et j'ai peur que le PPE ne ressemble plus à ce que j'ai connu, moi, il y a 25 ans, quand je suis arrivée, c'est-à-dire le parti qui était issu des pères fondateurs de l'Europe.
Des lignes difficiles à faire tenir ensemble pour la droite, aussi bien en France qu'en Europe, et tout cela sans compter les débats déjà très vifs sur le cas du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban et de la présence de son parti au sein du PPE, une présence soutenue aujourd'hui par François-Xavier Bellamy.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, rencontre cet après-midi à Milan son homologue italien. Il sera sans doute question d'une éventuelle rétrospective autour de Léonard de Vinci. La France et l'Italie se déchirent sur le sujet depuis la fin d'année dernière. Il y a 4 ans, un accord avait été conclu entre 2 musées italiens et le musée du Louvre à Paris, musée qui célèbre cette année les 500 ans de la mort du peintre, en réunissant la plus grande partie possible de ses œuvres picturales. Mais cet accord entre la France et l'Italie est pour l'heure bloqué pour des raisons moins artistiques que politiques, Louise Baudet.
Insupportables cousins français qui veulent tout avoir et s'approprient Léonard. Quant à l'automne dernier, la sous-secrétaire d'État aux biens culturels italien Lucia Borgonzoni entre en guerre contre le fameux accord. Elle ne fait que développer un argumentaire déjà bien rodé. L'accord est déséquilibré. Il place l'Italie en marge d'un événement culturel majeur, dénonce la sous-secrétaire d'État, qui appartient à la Ligue de Matteo Salvini et comme lui écume les médias pour tailler en pièces l'arrogance française.
Léonard est un grand Italien et nous devons en être fiers. De l'autre côté des Alpes, certains aimeraient bien le faire passer pour un Français. Je tiens à rappeler qu'au Louvre, il y a énormément d'œuvres italiennes qui ne nous ont jamais été rendues.
Captation d'héritage, spoliation, procès ancien mais sans fondement selon Simone Ferrari, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Parme.
Il faut rappeler que les Français n'ont pas pris la Joconde. C'est Léonard qui n'a jamais voulu s'en séparer et qui l'a lui-même apportée en France. On doit être reconnaissant envers les Français pour avoir compris et valorisé notre grand génie italien.
Pour Simone Ferrari, impossible de ne pas tenir parole.
Si c'est le Louvre qui demande les œuvres, enfin, elles ne vont pas dans un marché aux puces d'un village de province. C'est l'un des plus grands musées au monde. C'est une fierté pour nous, Italiens.
Née en pleine escalade verbale entre la France et l'Italie, la polémique s'éteindra-t-elle sur fond de réconciliation diplomatique? Alberto Bonisoli, le ministre de tutelle de la sous-secrétaire d'État, s'est dit ouvert au dialogue. C'est lui que Franck Riester rencontre aujourd'hui à Milan.
Franck Riester qui estime déjà ce matin que mettre à l'honneur un artiste italien, c'est mettre à l'honneur l'Italie tout entière. Pollution oblige, dans la vallée du Rhône, la circulation différenciée se met en place ce jeudi à Lyon et Villeurbanne. Ce n'est plus le cas à Paris et Lille. Ce jeudi marque aussi la fin de l'été hivernal avec un retour des nuages et de la pluie sur la moitié nord du pays. Comptez entre 9 et 11 degrés ce matin au nord de la Loire, 12 à 17 au sud.